puiser son enseignement dans la nature. Si la Bible doit tenir la première place dans l'éducation des enfants et des jeunes, le livre de la nature vient aussitôt après. Les œuvres de Dieu témoignent de son amour et de sa puissance. C'est lui qui a créé le monde et tout ce qu'il contient. Dieu aime la beauté. Dans l'univers qu'il a adapté pour nous, il nous a donné non seulement tout ce qui est nécessaire à notre confort, mais il a rempli les cieux et la terre de beauté. La riche moisson des champs en automne nous parle de son amour et de sa sollicitude, les gais rayons du soleil reflètent son sourire. Les rochers crénelés, et les hautes montagnes sont nés de sa main. Il a posé sur la terre un tapis vert et velouté, parsemé de buissons et de fleurs. Pourquoi a-t-il revêtu la terre et les arbres de vert vif et non de brun sombre? Serait-ce parce que cette couleur est plus agréable à l'œil? N'éprouvons-nous pas de la gratitude en constatant la façon dont sa sagesse et son amour sont à l'œuvre dans les merveilles de sa création? Cette même énergie créatrice à l'origine du monde est toujours active, soutenant l'univers et continuant d'animer les mécanismes naturels. La main divine guide les planètes dans leur course bien réglée à travers les cieux. Ce n'est pas porté par sa puissance propre que la Terre, année après année, poursuit sa course autour du Soleil et produit ses richesses. Dieu par sa parole contrôle les éléments. Il couvre le ciel de nuages et prépare la pluie, pour arroser la terre. Il rend les vallées fertiles et fait germer l'herbe sur les montagnes. C'est par sa puissance que la végétation s'épanouit, que les feuilles apparaissent et que les fleurs s'ouvrent. La nature tout entière est destinée à être le reflet de Dieu. Pour Adam et Ève dans leur foyer édénique, la nature vibrait de la connaissance et des instructions divines. À leurs oreilles attentives, elle faisait entendre la voix de la sagesse, sagesse qui parlait aussi à leurs yeux et qui leur suivait dans leur cœur, communiant avec Dieu dans ses œuvres créées. Dès que ce couple saint a transgressé la loi du Très-Haut, la nature s'est départie de la clarté qui brillait sur le visage de Dieu. La nature est désormais abîmée et souillée par le péché. Mais les leçons de choses divines n'ont pas disparu. Aujourd'hui encore, si la nature est correctement étudiée et interprétée, elle parle du Créateur. C'est à travers ses œuvres que l'on touchera le plus efficacement les païens qui ne connaissent pas Dieu. De cette façon, beaucoup plus rapidement que par toute autre méthode, ils réaliseront la différence entre leurs idoles, les ouvrages de leurs mains, et le vrai Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Les leçons tirées directement de la nature ont une simplicité et une pureté qui leur confèrent une valeur extrême. Les enfants et les jeunes, les étudiants de tous âges ont besoin de ces leçons. La beauté de la nature conduit l'âme loin du péché et des attraits mondains pour la tourner vers la pureté, la paix et Dieu. C'est pourquoi la culture du sol est une bonne activité pour les jeunes. Ils sont ainsi en contact direct avec la nature et son Dieu. Et pour qu'ils puissent profiter de ce bienfait, il serait bon qu'il existe, autant que possible, en relation avec nos écoles, de vastes jardins de fleurs et de grands terrains à cultiver. Une instruction donnée dans un tel environnement est en harmonie avec les directives divines et cependant à l'opposé des méthodes employées par la majorité des écoles, l'esprit des jeunes s'est nourri de livres de science et de philosophie où les épines du scepticisme n'ont été que partiellement cachées, de contes obscurs et imaginaires ou d'ouvrages dont les auteurs, même s'ils traitent de sujets bibliques, ont introduit leurs propres interprétations fantaisistes. L'enseignement de tels livres est comme une graine semée dans le cœur. Celle-ci grandit et porte du fruit, un prodigieux fruit d'infidélité. On en voit le résultat dans l'avilissement de l'humanité. La jeunesse appréciera le retour à des méthodes plus simples. Les activités au jardin et au champ offriront un changement agréable après la routine lassante d'un enseignement abstrait dans lequel on ne devrait jamais confiner de jeunes esprits. C'est particulièrement valable pour les enfants nerveux, pour qui les leçons livresques sont épuisantes et difficiles à retenir. L'étude de la nature leur donnera santé et bonheur. Les impressions reçues ne disparaîtront pas de leur esprit, car ils les associeront avec des objets continuellement sous leurs yeux. Dieu a destiné la nature à être pour les enfants des hommes la clé d'accès au trésor de sa parole. L'invisible est illustré par le visible. La sagesse divine, la vérité éternelle, la grâce infinie peuvent être appréhendées à l'aide d'éléments et d'objets concrets créés par Dieu. Laissez donc les enfants et les jeunes se familiariser avec la nature et ses lois. Que leurs facultés se développent au maximum et qu'ils se fortifient physiquement en accomplissant les tâches pratiques de la vie. Mais enseignez-leur également que Dieu a introduit la beauté dans ce monde parce qu'il fait ses délices de notre bonheur et qu'il nous prépare un foyer plus beau encore dans un royaume sans péché. Il déclare dans sa parole, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Les petits-enfants, notamment, devraient être élevés près de la nature. Qu'ils ne soient pas entravés par les modes, mais qu'ils jouent, libres comme des agneaux, dans la douceur du soleil. Montrez-leur les buissons et les fleurs, les humbles graminées et les arbres impressionnants, qu'ils se familiarisent avec la beauté de leurs formes diverses et délicates. Enseignez-leur à découvrir la sagesse et l'amour de Dieu dans ses œuvres créées. Tandis que leur cœur se gonflera de joie et d'un amour reconnaissant, qu'ils se joignent aux oiseaux en adressant à Dieu des chants de louange. Éduquez les enfants et les adolescents à contempler les œuvres du maître artiste, et à utiliser les grâces attrayantes de la nature dans la construction de leur caractère. Et tandis que Dieu s'attirera à leur cœur, que la beauté de la sainteté pénètre dans leur vie. Ils emploieront ainsi leurs facultés pour bénir autrui et honorer Dieu. La nature est remplie de leçons sur l'amour de Dieu, qui, correctement comprise, mène au Créateur. Elle tourne le regard vers la nature et vers le Dieu de la nature, enseignant ses vérités simples et sacrées qui épurent l'esprit et le font entrer en contact étroit avec le Créateur. Notre grand maître se sert de la nature pour refléter la lumière qui inonde le seuil du ciel, afin que tous aient le désir d'obéir à sa parole. La nature elle-même lui obéit. Le soleil, la lune, les étoiles, les grands arbres, les fleurs des champs adressent leurs conseils au cœur adouci par la grâce divine. Les semailles portent à réfléchir sur la semence spirituelle. L'arbre se dresse, déclarant qu'un arbre sain ne peut porter du mauvais fruit, pas plus qu'un arbre malade ne porte de bons fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Même l'ivraie a des leçons à nous apprendre. Elle est semée par Satan, et, si on la laisse, elle abîmera le blé en l'étouffant. Quand l'homme se réconcilie avec Dieu, la nature lui parle avec une sagesse céleste, témoignant de la vérité éternelle de la parole divine. Tandis que le Christ nous explique le sens des éléments naturels, cette science qu'est la vraie religion se révèle avec éclat, éclairant la relation entre la loi de Dieu et les univers naturels et spirituels. L'hirondelle et la grue observent les changements de saison. Elles migrent d'une région à l'autre pour trouver un climat qui leur convienne, comme le Seigneur les a destinées à le faire. Elles obéissent aux lois qui gouvernent leur vie. Les êtres humains, pourtant formés à l'image de Dieu, ne l'honorent pas lorsqu'ils désobéissent aux lois de la nature. En méprisant les lois qui gouvernent l'organisme humain, ils perdent leur aptitude à le servir. Dieu leur envoie des avertissements pour qu'ils prennent conscience de la façon dont ils transgressent sa loi en violant les lois de la vie. Mais les habitudes sont tenaces et ils ne l'écoutent pas. Leurs journées sont remplies de souffrances physiques et d'agitation mentale, parce qu'ils sont déterminés à suivre des habitudes et des pratiques néfastes. Ils ne réfléchissent pas à la relation de cause à effet et sacrifient leur santé, leur paix et leur bonheur sur l'autel de l'ignorance et de l'égoïsme. Le sage s'adresse ainsi à l'indolent. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies, et deviens sage. Elle qui n'a ni capitaine, ni officier, ni maître, elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Les fourmilières que se construisent les fourmis révèlent leur talent et leur persévérance. Elles ne peuvent transporter qu'un petit grain à la fois, mais leur assiduité et leur constance font des merveilles. Salomon prend la fourmi industrieuse en exemple pour réprimander ceux qui passent leur temps dans l'oisiveté ou des pratiques qui corrompent l'âme et le corps. La fourmi se prépare pour les saisons à venir, alors que beaucoup de gens talentueux aux grandes facultés de raisonnement ne se préparent pas à la vie éternelle. Le soleil, la lune, les étoiles, les solides rochers, les courants d'eau, le vaste océan agité enseigne des leçons que tous feraient bien d'écouter.